Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chers auditeurs, vous le savez, l'émission est financée entièrement par vous. Et oui, il n'y a personne d'autre qui peut permettre à l'émission d'exister, ni des annonceurs, ni des publicitaires. Et je vous remercie donc de penser à soutenir l'émission. Si elle vous plaît, si elle vous distrait, si elle vous informe, bah réfléchissez, peut-être que ça vaut le prix d'un petit café ou d'une petite bière. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Pierre Lebert, Fricazoïde, Ravéane, Stéphane Vinceau, Thibaut Fruchard, Fabrice Canella et Valgardre. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de la directive européenne sur le droit d'auteur qui fait beaucoup de bruit en ce moment et je pense à raison parce qu'il y a des dispositions qui inquiètent un petit peu l'intégralité de l'internet. Et on va aussi vous parler de YouTube Premium, de Instagram TV et de plein d'autres petites choses. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour nous aider à discuter de tout ça, et en particulier de cette histoire de directive européenne, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Lausson dans l'émission pour la première fois, et il est un petit peu nerveux, donc j'espère que vous lui réserverez un accueil chaleureux. Comment ça va, Julien ?
Eh bien, bonjour Patrick, ça va très bien, bonjour à toutes et à tous, et effectivement, c'est une grande première pour moi.
Bah écoute, je suis heureux de te recevoir dans l'émission, d'autant plus que tu as suivi un petit peu cette histoire de directive européenne. Tu es notamment l'auteur d'un article qui détaille les dangers de certaines de ces dispositions, notamment l'article 11 et l'article 13 sur Numérama. Donc merci beaucoup de te joindre à nous et puis on va discuter de tout ça ensemble. Je pense que ça va être intéressant et en même temps inquiétant.
Oui, effectivement. Quand on voit la manière dont toutes les organisations de défense des libertés du numérique sont montées au créneau pour essayer de s'opposer tant bien que mal à cette directive, il y a de quoi s'inquiéter.
C'est vrai, ouais. Ça a fait un petit peu une levée de bouclier de partout, c'est assez unanime. Et c'est marrant parce que moi, quand j'ai lancé l'émission, j'y pense de temps en temps, peut-être que je l'ai même mentionné, mais quand j'ai lancé l'émission il y a presque 10 ans maintenant, oula, 10 ans, c'était vraiment pour parler de l'iPhone et des gadgets cool et des trucs de Google, c'était des trucs sympas. Et plus ça va ces dernières années, plus on se retrouve à discuter de ces sujets éminemment politiques. Et c'est hyper intéressant aussi, mais c'est vraiment pas ce que j'imaginais faire quand j'ai lancé l'émission, mais c'est quand même hyper important, quoi. C'est pas des trucs dont je voudrais avoir à parler, mais c'est des trucs qui sont essentiels pour la tech et qui vont décider peut-être de la manière dont va évoluer le net, quoi. Donc, bon, c'est important d'en parler aussi.
Oui, en effet, oui, c'est un peu comme nous à Numérama. Au début, on parlait de peer-to-peer et de droits d'auteur, et puis avec l'actualité, Snowden, Adopi, la vie privée, on en vient à parler de sujets gravissimes finalement.
Je crois que c'est Snowden qui a provoqué ce basculement, en fait. Ça a vraiment... Alors, on parlait un petit peu de vie privée, de trucs comme ça. C'était genre, ouais, faut faire attention à ses mots de passe, ce genre de choses. Mais enfin, quand Snowden a fait les révélations qu'il a fait, là, on a basculé, en fait, le monde de la tech et de la technophilité a basculé dans un autre univers, quoi. Et ça, ouais. C'est l'un des sujets qu'on doit couvrir dans ce nouvel univers et qui est, comme je le dis, c'est un peu les manger les légumes avant d'avoir la viande, quoi. La viande, c'est les trucs marrants des nouveaux gadgets, mais les légumes sont hyper importants aussi. Et justement, cette directive, c'est un petit peu les légumes, genre les légumes qu'on n'aime pas, quoi. Les, je sais pas, voilà. Les épinards ou un truc du genre.
Les brocolis, ces choses-là.
Encore que des brocolis bien cuits et avec un petit assaisonnement, ça peut être vraiment délicieux. Donc c'est ce qu'on voilà. essaye de faire avec cette émission, c'est de vous proposer un bon assaisonnement à ces brocolis. Franchement, des brocolis frais, c'est très très bon. Donc, les brocolis de la tech. Donc, on va parler de cette directive qui est en cours de passage au Parlement européen. Et comme je le disais, comme on le disait, qui inquiète vraiment une grosse partie du net. Et il y a en fait un ensemble de dispositions sur le droit d'auteur, l'idée étant de réformer la gestion du droit d'auteur à l'heure d'Internet. Et il y a deux articles, qui sont les deux articles sur lesquels on va se concentrer, qui posent vraiment des questions très graves sur, non pas juste la gestion du droit d'auteur, mais le fonctionnement du net. Alors, ce sont les articles 11 et les articles 13, les articles 11 et 13, parlons bien français. Le premier a à voir avec le droit de citation et le deuxième avec le filtrage du contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les intentions de ces articles et puis quelles sont les implémentations qui sont inquiétantes ? Commençons avec l'article 11. On l'avait déjà évoqué, on n'avait pas parlé de l'article 13. On avait déjà évoqué l'article 11, mais c'est peut-être pas mal d'avoir un petit refresher pour ce sujet.
Alors, en fait, voilà, les deux articles qui sont contenus dans cette directive, en fait, sont apportés par la Commission européenne en considérant qu'il y a un certain nombre d'insuffisances dans les précédents textes et en constatant que, avec l'émergence de grands acteurs du numérique, typiquement Google, ça bouscule certains modèles économiques, typiquement le modèle économique de la presse, puisque Google a créé un grand portail où on peut accéder aux actualités, mais on se demande si Google ne devrait pas investir davantage, soutenir davantage les médias, puisque Google en profiterait également un peu de son côté en affichant des titres, des extraits d'articles.
C'est vraiment la suite de cette conversation qu'on a déjà eue il y a peut-être 2 ans, qui est une conversation constante, mais qui est très ciblée. On va parler des conséquences pour le reste du net, mais c'est vraiment ciblé sur la protection de la presse, cet article 11, dans le cadre de Google Actualité. C'est limite un article Google Actualité, quoi.
Quasiment. Ça n'emporte pas le nom, mais on sent bien que c'est Google Actualité qui est un petit peu, on va dire, dans tous les esprits. Il y avait eu des actions pour une taxe Google Actualité en France. De mémoire, il y a aussi une action en Allemagne. Il y a eu également des textes de loi.
Une action en Espagne.
En Espagne, à tel point que ça a fermé.
Oui, qui a conduit Google à carrément fermer Google Actualité. Alors, expliquons le texte et puis on va parler de ses conséquences. D'accord. Parce qu'en fait, on l'a déjà vu. Mais alors, que dit le texte ?
Alors, le texte, en fait, l'idée du texte, c'est de créer un droit voisin. Donc, pour l'article 11, pardon. C'est de créer un droit voisin pour les médias. C'est-à-dire que, en principe, si je veux faire un lien, en étant très synthétique et en résumant, si je veux faire un lien vers un site, je ne sais pas, Le Monde ou Le Figaro, je devrais demander à l'éditeur une autorisation pour le faire. Donc, en principe, ça ne pourrait pas être gênant. On pourrait imaginer que l'éditeur n'aurait pas de raison de refuser, mais pour des plateformes comme Google Actualité ou même pour des plateformes comme Wikipédia, ça pourrait éventuellement avoir des répercussions financières, puisqu'un éditeur pourrait se demander à avoir un paiement pour un lien qui est produit.
Et ce qui est très important à noter dans ce principe, c'est que ce n'est pas une demande d'autorisation pour une retranscription, une copie de l'article en question. C'est vraiment pour le lien. C'est pour un tout petit extrait de quelques mots, voire même pour l'URL elle-même, puisqu'elle est, en théorie, la propriété de l'éditeur qui a publié l'article. Donc même l'adresse peut être concernée par cette demande, par cette obligation d'autorisation, de demande d'autorisation. Et tu évoques Wikipédia. Enfin, c'est vraiment le droit de citer, finalement, qui est remis en question, ce qui serait déjà suffisamment préoccupant dans l'ancien monde, en quelque sorte. Mais Internet, je ne sais pas, une énorme partie du net, c'est en fait des liens et donc une sorte de citation. Donc, est-ce que c'est exagéré de dire que ça remet en question le fonctionnement du net, ou si, est-ce que je tire un peu sur la corde, ou est-ce que vraiment on peut dire ça?
Je pense qu'en tout cas il faut avoir cette menace à l'esprit. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, mais le web étant par essence un agencement de liens, enfin de sites qui sont liés les uns aux autres, c'est vraiment l'essence même, la base, le principe qui permet, voilà, de faire des liens, d'aller d'une page à l'autre. Effectivement, vu qu'on crée un mécanisme autour du fondement même du web, je pense qu'il n'est pas exagéré, au moins d'avoir cette menace à l'esprit et d'essayer de, soit d'arrondir les angles, soit d'empêcher que ça dérape.
Mais alors, on peut imaginer que les législateurs se disent « Oui, bon, mais forcément, on ne va pas aller emmerder n'importe quel petit blog qui va mettre un lien vers notre article. » Et que donc, encore une fois, on se retrouve dans ce contexte où la cible, c'est vraiment Google Actualité ou n'importe quel site qui fonctionnerait de cette manière. Mais il n'empêche que le principe est établi comme ça. Le principe, c'est pas juste Google doit le faire, c'est pour faire un lien, ils font demander l'autorisation, point barre. Alors peut-être qu'on pourra dire oui, mais c'est seulement pour une société qui a telle limite de chiffre d'affaires, mais à ma connaissance, c'est pas de cette manière qu'est formulé l'article. Et puis surtout, une fois que l'arsenal légal est mis en place de cette manière, ça peut conduire à des dérives vraiment inquiétantes. Et ne serait-ce que, comment est-ce que les éditeurs de presse vont gérer l'afflux de demandes? Alors, ils auront peut-être qu'ils vont développer des portails, j'en sais rien, mais c'est une opération qui est lourde, quoi.
Et ça devient un petit peu une usine à gaz, puisque ça demande... En voulant aider, j'imagine, c'est presque contre-productif, mais en voulant aider les éditeurs à avoir leurs droits mieux défendus et éventuellement à toucher de l'argent, ça va leur demander un effort important pour pouvoir justement, comme tu dis, gérer l'afflux des demandes, puisque on imagine que des TF1.fr, Le Monde, Le Figaro recevraient des dizaines ou des centaines de demandes d'autorisation pour lier un article.
C'est vraiment surprenant comme méthode pour ça, et d'autant plus que si la cible, c'est Google Actualité, ce qui semble être le cas, enfin soyons honnêtes, c'est effectivement le cas. On a déjà vu ce qui se passe quand ce type d'obligation est mise en place. On l'a vu en Espagne, au moins il y a cet exemple. Si Google est légalement contraint à demander en l'occurrence c'était à payer, mais le but est de faire payer effectivement, donc de payer l'éditeur pour faire pour afficher un très court extrait et mettre un lien vers l'article, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, Google, c'est ce qu'ils ont fait en Espagne, a interrompu le service Google Actualité en Espagne, donc il a disparu, Google Actualité n'existait plus en Espagne, et du coup la conséquence de ça, c'est que les éditeurs de presse ont perdu du trafic. Donc, il y a une chute sensible du trafic vers leur publication et donc, évidemment, du revenu publicitaire, de la visibilité, etc. Donc, j'en viens presque à me demander, et là, je pense que tu n'as pas beaucoup plus d'idées que moi, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, les députés européens, pour vouloir faire ça? Est-ce que c'est vraiment du lobbying de la presse européenne contre les grosses sociétés américaines qui fait que ça les convainc que c'est une bonne idée? À quoi ils pensent en rédigeant un article de la sorte?
Effectivement, moi, je pense qu'il y a un effort important des éditeurs, et je pense que les éditeurs, vraiment, ils interviennent en ayant des bonnes intentions. dans leur esprit, ils n'ont pas intérêt à, ils veulent pas nuire en tant que tel à Google. Ils veulent juste avoir la certitude parce que bah ils vivent dans un secteur en crise. La presse a énormément de difficultés à trouver un modèle économique pérenne. Donc ils cherchent à essayer de protéger leur modèle, mais en le faisant certainement pas de la meilleure des façons. Mmh. Du coup, bah ils poussent. Et en ayant une stratégie un peu à court terme, en essayant de résoudre le problème immédiatement, sans créer une solution qui pourrait être beaucoup plus durable.
Bon, c'est sûr que la solution plus durable, on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait vouloir dire. Peut-être, on n'a pas vraiment de réponse, ça serait tout un autre débat. Mais je comprends le point de vue des éditeurs de presse. Eux, ils défendent leur beefsteak, donc ils vont y aller, essayer de pousser dans cette direction. Même si nous, on pense qu'elle est pas mal intentionné, mais enfin que c'est pas la bonne solution. Mais les députés, ils devraient avoir une compréhension minimum de ces sujets. Peut-être qu'ils devraient écouter le rendez-vous tech, justement, pour comprendre les conséquences désastreuses d'une mesure de ce type, quoi. Les députés, c'est sur les députés, finalement, que revient la faute. Les éditeurs de presse, je comprends leur démarche. Mais peut-être parce que autant sur des trucs comme la RGPD, on se disait oui, c'est un peu poussif, mais on se rend bien compte maintenant que c'est sans doute une bonne chose, même si je vous avoue que je commence à en avoir marre des grandes bannières immenses qui me couvrent la moitié de mon contenu et que je dois cliquer en permanence sur les sur les trucs accepter ou ne pas accepter, machin. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Et peut-être qu'ils se disent oui, on a toujours des hippies du net qui viennent nous dire que ça va être la fin du monde, mais finalement, vous voyez bien que c'est pas si mauvais que ça. Peut-être qu'ils sont dans cet état d'esprit, je sais pas, mais là, on a une mobilisation et une réalisation du danger de cet article qui est assez universel, quoi. C'est pas juste des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Je pense que tous les gens qui s'y connaissent, un minimum, comprennent que c'est pas une bonne chose.
Oui, on a même, pour montrer l'ampleur de l'inquiétude, donc il y a eu des personnalités comme Tim Berners-Lee, donc qui a créé le système de l'hyperlien. On a Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia. On a même le rapporteur spécial de l'ONU en charge des questions de liberté d'expression qui s'est inquiété des dispositions de cette réforme du copyright. Donc on n'est pas effectivement donc cinq gus dans un garage, ouais, qui s'énervent en disant ma liberté d'internaute et tout ça. Hein. On a quand même des personnalités donc qui connaissent très bien leurs sujets respectifs, qui pointent les excès potentiel de cette directive.
Alors parlons de l'article 13 justement, qui lui est aussi extrêmement inquiétant. L'article 13, c'est donc une obligation de filtrage de tout le contenu du net. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Voilà, l'idée, c'est en fait de basculer un petit peu la responsabilité. Jusqu'à présent, depuis 2000, il y avait une responsabilité donc qui se déclenchait a posteriori pour les hébergeurs, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur met en ligne un contenu illicite sur l'hébergeur, sa responsabilité n'est pas engagée à condition qu'il agisse promptement si on lui signale le contenu illicite et qu'il n'intervienne pas pour le mettre en avant, enfin qu'il n'y ait pas une espèce de travail d'éditorialisation. Là, l'idée, c'est de mettre davantage de responsabilités sur les hébergeurs pour qu'ils n'interviennent plus que a posteriori, mais également a priori, c'est-à-dire pendant l'envoi, pendant l'upload d'un fichier, eh bien là, il y aurait des algorithmes et des filtres qui seraient mis en œuvre pour vérifier que ce qu'on envoie, eh bien c'est autorisé ou c'est rejeté.
Donc là, l'idée, l'intention, c'est de protéger les œuvres audiovisuelles, finalement, les films ou les clips, la musique. Et pour simplifier, en fait, c'est le Content ID de YouTube appliqué à les éditeurs de sites web.
Voilà, les grosses plateformes. A priori, voilà, ça viserait que les grosses plateformes. Alors, le problème, c'est qu'on ne définit pas vraiment le seuil à partir du moment où on considère que telle plateforme est assez grosse pour qu'elle rentre dans cette obligation, ou à partir de quel moment elle diffuserait un nombre tel d'œuvres qu'elle serait concernée par l'article 13. Là, comme c'est une directive, il y a certaines précisions qui seront précisées, j'imagine, dans l'implémentation locale de chaque loi,
Mais
Voilà, l'idée, c'est le Content ID de YouTube généralisé, quoi.
et là, là où on pourrait se dire, ah bah oui, c'est super, donc on a des algorithmes qui peuvent reconnaître les œuvres qui sont protégées, parce que la manière dont ça fonctionne sur YouTube, c'est que toutes les vidéos uploadées sont analysées et il y a une sorte de fingerprint ID, d'empreinte numérique qui est créée. Et qui est ensuite comparé au nouveau contenu analysé. Et si le nouveau contenu correspond à l'une de ces empreintes numériques qui existent déjà, eh bien, comment dire, le filtrage est mis en place. Et le filtrage, ça peut être n'importe quoi. Sur YouTube, c'est les droits de votre vidéo sont donnés au propriétaire du contenu que vous avez copié. En quelque sorte, je schématise. Donc, ça existe déjà sur YouTube. Et j'ai presque envie de dire, comme avec l'article 11, la cible spécifique, on ne voit pas vraiment, vraiment d'autres cibles que YouTube, parce que tous les autres sont déjà gérés, sauf que sur YouTube, ça existe déjà. Et surtout, l'immense problème, c'est que sur YouTube, ça existe déjà, mais ça existe déjà et ça pose des gros soucis, parce que la manière dont c'est utilisé fait très peu de cas justement du droit de citation, de la modification d'un contenu qui va être retravaillé et donc qui serait autorisé, de la critique de contenu, etc. Et on a des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples de vidéos qui sont bloquées parce que telle ou telle société a dit, ah bah ce contenu que vous utilisez, il nous appartient. On a des exemples parfaitement ridicules où le propriétaire d'un contenu, d'un morceau de musique ou ce genre de choses, se voit retirer l'utilisation de son contenu parce qu'une autre société le lui a acheté et l'a utilisé dans un reportage ou quelque chose comme ça sur YouTube et a donc décidé ou a déclaré que le contenu lui appartenait. Donc il y a un manque de nuances dans ces systèmes qui sont déjà préoccupants sur YouTube, mais bon, YouTube est une société privée, ils font ce qu'ils veulent. Là, demander une imposition de ce type de système à toutes les plateformes, entre guillemets, suffisamment grosses, c'est carrément demander à n'importe quelle plateforme de faire la police. Enfin, une conséquence, ça va être qu'ils vont être, entre guillemets, plus prudents et donc ratisser large et provoquer une altération de. Alors, j'ai pas envie de sortir ma pancarte liberté d'expression, mais enfin, on peut se demander si elle va pas être affectée, quoi.
Bah, c'est le problème, c'est que lorsqu'on fait basculer la responsabilité des hébergeurs d'un système a posteriori à un système a priori, les hébergeurs, surtout des hébergeurs comme YouTube, qui pourraient recevoir des centaines, des milliers de notifications, et donc des centaines et des milliers de plaintes, j'imagine que même s'ils ont un département juridique suffisamment solide pour faire face à beaucoup de procès, ils vont vouloir certainement resserrer la vis et être certains de n'avoir aucun problème, quitte à sabrer des contenus qui pourraient au final être tout à fait acceptés, pour éviter justement d'avoir des ennuis avec les ayants droit.
On disait, c'est Content ID pour le web, c'est vraiment ça. Et tous les problèmes qu'on voit et dont on parle depuis longtemps avec le Content ID de YouTube, je vois. Mais en plus, je ne comprends pas, peut-être que je rate un truc, mais de quelle plateforme est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est Dailymotion ou Vimeo ou, je ne sais pas moi, Spotify? J'ai pas l'impression que Spotify ait des problèmes avec de l'upload de contenu. Peut-être que ça arrive à la marge, mais je ne sais même pas de quelle plateforme on parle. Les plateformes d'upload de GIF, enfin, je sais pas, je vois pas quel problème ça résout. Autant pour Google Actualité, l'article 11, je peux comprendre l'idée. Autant pour l'article 13, je vois pas quel est concrètement, oui, en théorie, dans un univers parallèle, le contenu copyrighté n'est pas protégé, il faut protéger. C'est un petit peu ah, mais attention, faut protéger les enfants des pédophiles, tu vois. C'est
Ouais.
genre, le copyright, il faut le protéger. Ok, d'accord, mais concrètement, là, quel problème est-ce que ça résout quelles plateformes seraient concernées qui ne sont pas déjà, entre guillemets, alors, protégées comme YouTube?
Moi, je verrais, donc, dans le champ d'application de l'article 13, effectivement, je verrais les plateformes vidéo comme YouTube, Dailymotion, Vimeo, probablement peut-être des plateformes d'hébergement de photographie, peut-être Flickr. Il me semble, de mémoire, en début d'année, alors ça reste à démontrer, mais il y a une parlementaire de la France Insoumise qui s'inquiétait de l'application de cet article pour les forges logicielles comme GitHub et compagnie, en supposant que si on doit aussi filtrer les morceaux de code informatique qui pourraient être protégés par le droit d'auteur, ce qui pose des problèmes de fond pour l'écosystème du logiciel libre qui se base justement sur des licences très permissives où on prend du code, on le manipule, on l'intègre. Donc c'est tous les contenus, on va dire, enfin c'est toutes les plateformes qui acceptent du contenu de l'utilisateur. A priori, Spotify et Deezer ne seraient pas concernés à moins qu'ils autorisent des utilisateurs à mettre en ligne leurs propres fichiers musicaux.
Bon, oui, mais il y a self-publishing, de l'édition qu'on fait soi-même, qui est disponible avec des petites plateformes type, enfin, je pense à CD Baby et il y en a plein d'autres certainement, mais on peut penser aux livres aussi. Je suis sûr qu'il y a des petits endroits où on va... Enfin, tu parlais de photos. Effectivement, peut-être qu'il y a des sites où ce genre de choses sont préoccupantes pour certaines professions, mais... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est quand même prendre un immense, comment dire, peut-être un marteau ou un marteau-pilon pour essayer d'enlever quelques échardes, et c'est pas comme ça qu'on enlève les échardes, c'est pas au marteau, il faut une petite pince précise quoi, mais bref, clairement... Ces deux articles posent énormément de problèmes. Où on en est, là, du vote sur ces articles? Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est en étude? Est-ce qu'on peut appeler nos députés? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de leur faire aménager au moins les dispositions? Ou est-ce que c'est trop tard? C'est sur l'autoroute, là?
Alors, pour l'instant, rien n'est encore joué. Il y a eu le 20 juin, il y a eu un vote... commission spécialisée donc au Parlement européen, c'est la commission des affaires juridiques. Donc ils étaient 25 à prendre part au vote. Donc la directive a été votée dans cette commission. Maintenant, il y a plusieurs autres étapes qui vont s'ouvrir. La prochaine étape, ça sera début juillet, où en gros, c'est la session plénière du Parlement européen. Donc là, c'est les 730 ou 750 parlementaires qui vont voter en gros, sur ce qu'a voté la commission spécialisée. Donc, ils vont accepter ou refuser ce qui a été fait précédemment. Et en fonction du vote qui va avoir lieu en juillet, soit on repart un petit peu à zéro, si par exemple le Parlement refuse ce qui a été fait précédemment. Si c'est accepté, ensuite, on entre dans une phase de négociation entre le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Donc, le Conseil de l'Union européenne, c'est l'instance qui réunit les chefs d'État de l'Union européenne. Et ensuite, si un accord est trouvé, il y aura un vote final dont la date n'est pas encore tout à fait fixée. On pense à décembre ou janvier, donc décembre 2018, janvier 2019. Et pendant cette période, il est tout à fait possible de contacter ses représentants pour essayer de leur demander de voter dans le sens qu'on veut. Voilà.
Alors, il y a un site justement qui s'appelle saveyourinternet.eu, qui est un site édité par l'EFF, je crois. Je suis pas complètement sûr, mais c'est... Non, je sais plus qui édite ce site, mais en tout cas, c'est un site qui facilite énormément le contact du député européen, justement, du représentant européen. On peut tweeter, appeler par téléphone, ça vous met en contact directement avec eux, vous n'avez rien à faire, enfin juste à cliquer sur 2-3 trucs pour trouver votre député et ça initie directement l'appel par votre téléphone, c'est vraiment hyper facile. Vous pouvez faire un email aussi, c'est donc saveyourinternet.eu. Si tous ces sujets vous inquiètent et que vous êtes un petit peu actif, je vous encourage à aller sur le site et à regarder un petit peu comment ça marche. Ça simplifie au maximum. Je crois que si on se dit ouais, il faut être un petit peu actif et qu'on ne le fait pas avec ce site-là, vraiment, on ne le fera jamais, quoi. Donc, saveyourinternet.eu. Bon, bah écoutez, on va faire, après ces sujets un petit peu préoccupants, on va faire une petite pause et continuer à parler de YouTube, Instagram, tous ces trucs beaucoup plus marrants. Mais avant ça, je vais quand même prendre une petite minute pour vous rappeler que le Rendez-vous Tech est financé par Patreon. Patreon, c'est quoi ? C'est un système très simple. Bon, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois, mais je rappelle pour les nouveaux venus, c'est un système où vous pouvez allez vous inscrire sur le site, décider de combien d'argent vous voulez donner pour chaque épisode. Vous pouvez dire, je donne le prix d'un café, d'une bière, ce que vous voulez. Vous décidez combien d'épisodes vous soutenez par mois. Et à la fin du mois, et ben vous êtes débité du montant. Et voilà, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est un moyen hyper simple de soutenir le Rendez-vous Tech. Et à vrai dire, c'est le seul moyen de soutenir le Rendez-vous Tech parce que l'émission n'est financée que par ce moyen-là. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de société même qui m'envoie des téléphones ou du matériel ou ce genre de choses. Je récupère tout, j'achète tout moi-même. Et donc, je suis 100%, 120% indépendant, hein. C'est important aussi et c'est vraiment je pense le business model comme je le dis souvent le plus sain de l'histoire parce que vous pouvez choisir de soutenir ou pas, le contenu est disponible de toute façon que vous payez ou pas et vous pouvez décider de comment vous soutenez, combien vous soutenez et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc là, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, si ce genre de business model, bah, vous souhaitez pas le soutenir alors que vous pensez que l'émission le vaut financièrement, bah, je crois qu'il n'y a aucun business model qui conviendra. Donc je vous encourage, si vous appréciez l'émission, comme je dis toujours, si elle vous divertit, si elle vous intéresse, si elle vous fait passer un bon moment, bah, allez faire un petit tour sur Patreon, patreon.com/rdvtech. C'est super simple, ça prend 2 minutes. Et bah, vous pouvez décider à ce moment de soutenir ou pas, mais je pense que si vous allez sur le truc, vous vous direz « ouais, allez, ça vaut le coup ». Il y a beaucoup de gens qui me disent « après plusieurs mois, plusieurs années d'écoute, j'ai enfin décidé de devenir patriote et j'en suis hyper fier et content ». Je comprends parce que je suis moi-même patriote de plusieurs autres émissions et c'est une vraie fierté de se dire que l'émission est produite aussi grâce à nous. Donc aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Johan Denis, Étienne Mercéran, ses champions, Christopher Loria, pardon, Julien Job, Jean-Rémy.fr, François-Rémy.fr, pourquoi je dis Jean. Et enfin, Mouik Mouik, merci à vous tous et merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous que l'émission existe et je vous suis éternellement reconnaissant. Bon, continuons un petit peu avec les news et les rumeurs. Alors, une grosse news qui, moi, m'a fait très plaisir, c'est l'arrivée de Google, de YouTube Premium en France et dans d'autres pays. YouTube Premium, c'est quoi ? C'est un abonnement à YouTube qui retire la pub de YouTube et qui, en plus, vous inclut l'abonnement YouTube Music. Alors, on sait que YouTube Music et Google avec la musique a été un petit peu confus ces dernières années. Il y avait différents services qui faisaient différentes choses. Et quand on disait YouTube semble réfléchir à un système de musique, bah, c'était un petit peu ridicule. On se disait, mais enfin, comment les vidéos, les machins ? En fait, ils ont fait un truc super malin. Ils ont sorti une autre application qui s'appelle YouTube Music, qui marche comme n'importe quelle application de streaming musical, mais qui en plus inclut les vidéos, si besoin, si vous les voulez. Mais vous pouvez aussi écouter en fond, vous avez vos playlists, etc., etc. L'abonnement à la musique coûte 9 € ou 10 €. Et si vous rajoutez 2 € de plus, vous avez YouTube Premium, qui est l'équivalent de YouTube Red qui existait déjà aux États-Unis, mais qui est simplement l'abonnement à YouTube pour supprimer la pub. Et moi, qui suis un gros consommateur de YouTube, je me suis jeté sur YouTube Premium. C'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir YouTube sans la pub et en plus d'avoir la possibilité sur les appareils mobiles de continuer à écouter un truc, même quand on passe l'application en tâche de fond. C'est le cas sur iOS. Moi qui suis sur iOS, ça me rend de grands services. Mais donc voilà, YouTube Music, YouTube Premium qui sont arrivés. Moi, je ne pensais pas que ça serait aussi intelligemment fait et ils m'ont un petit peu surpris. Je ne sais pas si toi, je crois que tu es un consommateur un petit peu moins fervent de YouTube ou ça ne t'intéresse pas forcément cet abonnement, toi, Julien ?
Alors moi, je suis voilà, juste utilisateur standard de YouTube parce que l'aspect musical, moi, je passais par Spotify, mais j'imagine que pour les personnes bah, qui consommer de la musique, qui se créent des playlists dans YouTube pour écouter de la musique, c'est un bon système qui
Mais
évite
tu sais,
de.
il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, moi, je suis sur Spotify, je ne vais pas changer. » Je crois que si on est consommateur de YouTube, le retrait de la pub et oui, il faut transférer ses playlists, tout ça, c'est peut-être un peu chiant, mais YouTube Music marche, j'ai l'impression, aussi bien que tous les autres. Et du coup, on a la musique intégrée à... Si on est intéressé par plus avoir de pubs sur YouTube, on a presque la musique, entre guillemets, en bonus, en plus, quoi. Tu vois, c'est
Oui,
comme ça que je le vois.
c'est ça marche un peu sur deux jambes. Tu as à la fois
Ouais.
l'aspect musical et puis bah, tout ce qui est vidéo que tu peux télécharger hors ligne, les contenus exclusifs de YouTube. Donc oui, il marche vraiment sur deux jambes pour que si tu n'es pas forcément très motivé par la musique, eh ben, la vidéo peut éventuellement te faire sauter le pas.
C'est ça, moi je crois que je vais supprimer mon abonnement, enfin je vais le faire Apple Music, parce que bah, j'ai YouTube, et comme tu le disais, il y a du contenu vidéo, alors aujourd'hui il n'y a pas grand-chose en exclusif, mais ça commence à arriver, et visiblement la série Cobra Kai, la suite de Karate Kid 30 ans après, la série est pas mal du tout, donc
Ah oui,
je vais regarder
effectivement.
ça. Il commence à avoir du petit contenu comme ça. Ça pourrait monter en puissance à l'avenir, mais bref, moi je suis vraiment séduit par ce service et je pensais pas du tout quoi. Moi, quand on parlait de ces trucs-là, oui, je voulais ne plus avoir de pub sur YouTube, mais ce bundle en fait est pas mal du tout, je trouve. Et toujours dans le domaine de la vidéo, il y a Facebook qui est en train d'étendre son offre Watch, donc YouTube vidéo, en fait, à plein de créateurs. Ils incluent plein de types de contenus différents. Donc Facebook s'y attaque aussi. Mais surtout, le gros truc qui est arrivé cette semaine, c'est l'arrivée de Instagram TV.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
TV. Instagram TV, c'est quoi? C'est une nouvelle app Instagram qui est consacrée à du contenu long format, donc entre 30 secondes, enfin peu, le temps minimum, et une heure, c'est une heure maximum. Et c'est sur le réseau Instagram, donc vous avez les mêmes followers, les mêmes personnes que vous suivez. Et vous avez accès à leurs vidéos long format sur votre téléphone. Alors, c'est vraiment focalisé sur le téléphone. La vidéo est verticale, ce qui fait un petit peu de mal aux yeux de certains internautes, mais qui, je crois, ne dérange pas du tout les plus jeunes d'entre nous qui sont accros à Instagram et qui commencent à avoir l'habitude de ce type de format. Et on pense à Snapchat, bien sûr. Mais Instagram, avec son milliard d'utilisateurs mensuels, rendez-vous compte, en 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, ils ont pris 200 millions d'utilisateurs mensuels. Certains disent, et je crois que je suis assez d'accord, c'est la première fois qu'il y a un service vidéo qui pourrait venir commencer à chatouiller YouTube, quoi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julien, mais Instagram, ils ont une telle force de frappe que ça pourrait potentiellement avoir un certain succès avec ce format qui est très différent, qui s'adresse à d'autres personnes, à un autre type de contenu, quoi.
Je pense effectivement que ça pourrait poser des problèmes à YouTube, ce qui arrangerait évidemment Facebook qui mise beaucoup, puisque Instagram est une filiale de Facebook.
Bien sûr.
Et que Facebook mise beaucoup sur la vidéo, que ce soit sur son réseau propre, mais également sur Instagram. Donc s'ils arrivent à faire basculer un certain nombre de téléspectateurs d'une plateforme à l'autre, surtout qu'Instagram c'est une plateforme plutôt fréquentée par des jeunes gens, donc
c'est
on
ça,
peut imaginer qu'ils travaillent pour la génération qui vient finalement.
Mais je crois que c'est exactement ça en fait. Instagram, on le disait, Instagram, t'as raison de le prononcer comme il faut, Instagram a une énorme force de frappe et... Les gens qui utilisent Instagram sont à cheval, en fait. Enfin, on doit pas se mentir, Instagram a complètement volé le principe et la dynamique de Snapchat, qui était vraiment l'app favorite des jeunes il y a 2 ans encore. Là, on a l'impression qu'ils sont en train de passer sur Instagram. Et du coup, convertir cette population à du contenu vidéo long format, et cette population qui est essentiellement sur son téléphone, parce qu'ils ne sont pas ni sur la télé, ni sur l'ordinateur du bureau.
Du salon.
Ouais, du salon ou ce que c'est. C'est essentiellement le téléphone qui est leur méthode de consommation de contenu. Instagram TV, ça peut tout à fait créer des usages réguliers. Là où des trucs comme Vine ou d'autres tentatives avaient échoué parce que ce n'était pas une offre complète et ce n'était pas une offre qui avait suffisamment de carburant à la base. Alors que là, il y a des tonnes de créateurs sur Instagram déjà qui faisaient des petites vidéos court format. Et là, on peut uploader carrément n'importe quelle vidéo pré-produite sur la plateforme. Moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. On n'y est pas encore, mais c'est la première fois où je me dis « Ah, là, ça pourrait donner quelque chose, quoi. »
Voilà, la seule interrogation que j'aurais, c'est est-ce que les gens vont bien tolérer le format vertical sur des périodes de temps un peu longues, sur 30 secondes, une minute. C'est certainement regardable sans problème. Mais est-ce que sur des durées qui durent un quart d'heure, une demi-heure, une heure, est-ce qu'au bout d'un moment, ce format un peu resserré n'est pas surtout si on imagine quelque chose de très créatif ou avec de la mise en scène et pas simplement face caméra avec une tête qui apparaît en gros plan, est-ce que ça va bien rendre?
Tu sais quoi, j'ai vu plusieurs personnes j'ai publié une vidéo justement sur Instagram TV. Il y a plusieurs personnes qui ont fait la remarque, ah là là, le vertical, c'est le mal, machin. J'ai vraiment l'impression que c'est des réactions de vieux cons comme nous qui sommes habitués à de l'horizontal. Il y a aucune raison, enfin moi je vois pas de raison que le vertical. Oui, c'est pas la manière dont on voit le monde est plus horizontal parce que nos deux yeux sont horizontaux. Mais il n'empêche, il y a pas, c'est minime. Il y a pas de raison que le vertical ne puisse pas, d'une part, être créatif aussi et qu'on trouve des usages intéressants à ce type de format. Et puis, franchement, quand on voit ce que c'est que la plupart des trucs sur YouTube, c'est comme tu le dis, une personne qui parle devant la caméra pendant un quart d'heure, 20 minutes, avec des petites images qui passent en fond. Et en plus, on a déjà vu le format Stories. Oui, c'est plus court, c'est 30 secondes ou une minute. Mais le format Stories, il y a des gens qui vont regarder 10 000 stories à la suite. Je pense qu'on est arrivé, en fait, à une étape où le format vertical et viable. Il y a 3 ans, on serait peut-être tous dit « Ouais, non, mais c'est immonde de regarder les vidéos comme ça ». Aujourd'hui, le groupe des jeunes qui regardent des vidéos sur leur téléphone mobile, je pense qu'ils seraient plus clients de ce genre de choses et pourquoi pas en long format. Moi, je pense vraiment que c'est possible et que c'est nos réactions de vieux cons qui sont « Ouais, c'est moche, le vertical ».
On n'est pas habitué, on a été formé à l'école YouTube.
Exactement, exactement. Donc vous pouvez aller vous abonner sur Instagram à NotePatrick si vous le souhaitez. Peut-être que je vais essayer ce format un petit peu plus. C'est sympa franchement comme petit format et c'est les stories avec des commentaires, avec une réaction à ce que je disais en fait. Ce que je disais il y a 1 ou 2 semaines, c'est que les stories, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas les commentaires et donc on n'a pas l'interaction avec la communauté. Là, on a les commentaires sur la vidéo. Donc moi, ça me plaît un petit peu plus. Donc voilà, on verra. Peut-être que je ferai un petit peu plus de ça. Tiens, parlons un peu de ce Oppo Find X. Oppo Find X, qui est le nouveau téléphone de la marque Oppo, qui fait généralement des téléphones milieu de gamme, on va dire. Et ils ont de temps en temps des téléphones haut de gamme, des flagships. Et là, c'est un téléphone qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine, parce qu'il a une solution assez intéressante au problème de la petite frange sur les écrans qui vont de bord à bord, et la petite frange où on place les caméras. Et là, il n'y a pas de petite frange, mais les caméras sont à l'intérieur de l'appareil et toute la partie haute de l'appareil monte, sort en fait du corps du téléphone pour soit prendre une photo, soit vous faire une reconnaissance faciale comme l'iPhone X, l'iPhone X. et il sort pendant une demi-seconde et puis il re-rentre. On avait déjà vu un téléphone, je ne sais plus lequel c'était, un Moto, je ne veux pas dire de bêtises, mais un téléphone qui faisait sortir une caméra, mais là, ça faisait très gadget, quoi. Celui-ci, c'est vraiment toute la partie haute qui est motorisée, qui monte une demi-seconde et qui redescend, et ça vous débloque le téléphone. Qu'est-ce que tu penses de cette solution? Parce que pour le coup, l'écran, il est vraiment bord à bord, il n'y a rien du tout sur l'écran. C'est genre 92% de la face de l'appareil, c'est l'écran, quoi.
Alors moi, je trouve que c'est pas mal du tout comme approche, parce que ce qui m'avait gêné lorsque l'iPhone 10 était sorti, donc avec effectivement l'espèce d'encoche qui regroupe donc la caméra et les différents systèmes de biométrie faciale, c'est qu'ensuite, tu avais tous les constructeurs, en tout cas une bonne partie, qui semblaient trouver que c'était la chose à faire. Donc, on a eu beaucoup de terminaux qui sont sortis avec une encoche. Là, c'est difficile de dire si c'est la meilleure idée. Mais en tout cas, c'est une proposition différente. Et rien que pour ça, ils tentent quelque chose d'un peu différent que ce que propose Apple. Moi, je trouve ça assez séduisant. Après, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que la partie mécanique, donc l'espèce de glissière, est assez résistante, le moteur, est-ce que s'il y a un grain de sable qui rentre, si on l'emmène à la plage et qu'il prend un peu de sable, est-ce que ça ne va pas gripper le système?
C'est le gros problème, en fait, de ce mécanisme, effectivement. Tu as tout à fait raison, c'est au moins une solution différente et intéressante à ce problème. Ils ont le mérite d'avoir une vraie innovation d'ingénierie. Ensuite, la grande question, c'est ça, c'est la durabilité. Et même s'il n'y a pas de petite poussière ou de grain de sable qui vient se glisser dans le truc, la durabilité, combien de temps est-ce que le moteur va fonctionner, etc. Dès qu'on introduit des parties mouvantes et mécaniques dans un appareil, on introduit forcément de l'usure et ce type de soucis. Mais bon, il n'empêche que le téléphone fonctionne très bien et il offre une solution technique intéressante à ce problème, quoi.
Ouais, et c'est amusant parce que la manière dont il s'ouvre me fait penser au téléphone à glissière qu'on avait eu dans les années 90.
Le Nokia 8910, je ne sais plus comment il s'appelait, 80.
Voilà, ou j'avais eu un Samsung.
Le téléphone de Matrix.
Voilà, où ça s'ouvre un petit peu et ça dévoile alors le clavier ou quoi que ce soit.
C'est ça.
Ça me fait penser un peu à ça, c'est amusant.
Un peu, ouais. En plus, il a un beau design avec des couleurs différentes, un bord courbé, etc. Il est assez joli. Tiens, si vous pensiez que votre métier ne sera pas attaqué par l'intelligence artificielle et que vous étiez bien tranquille dans votre sécurité de métier intellectuel, eh bien, détrompez-vous, IBM vient de présenter IBM Debater, donc débatteur, qui est une intelligence artificielle qui va mener des débats. Alors, on sait qu'aux États-Unis, le débat est presque un domaine de compétition. C'est un truc qu'ils font beaucoup à l'université, à l'école. Donc, c'est très codifié et c'est vraiment une méthode pour essayer de se convaincre l'un l'autre en utilisant des arguments rationnels sans forcément essayer simplement de se convaincre de ceux dont on est déjà convaincu. Il y a vraiment des rôles qui sont donnés dans les parties, en quelque sorte, de débat, dans les débats, et on doit essayer de raisonner pour essayer de convaincre l'autre, et après, des gens jugent de qui a été le plus convaincant. Eh bien, IBM a conçu donc une intelligence artificielle dont le but est de débattre. Alors, ils ont une centaine de sujets qu'ils peuvent couvrir. Enfin, le IBM Debater a une centaine de sujets qu'il peut couvrir. C'est pas des arguments préécrits. C'est vraiment une analyse d'articles dans les domaines qui ont été réunis, et il va analyser ce que dit la personne en face. Analyser le raisonnement, prendre des arguments dans les articles auxquels il a accès et monter un raisonnement pour contrer celui de l'autre, ou alors donner son raisonnement à la base. Et alors, comment dire, on n'a pas vraiment de vidéo des débats, donc ça me laisse penser qu'ils y sont pas encore. Je me suis précipité pour voir si IBM Debater allait pouvoir devenir d'ici quelques années IBM Podcaster et me prendre mon métier à moi. Visiblement, on n'y est pas encore, mais le fait qu'ils y travaillent et qu'ils puissent tenir des débats, c'est le début du truc. Et il y a des trucs marrants, genre quand il sait qu'il ne va pas réussir à contrer le point spécifique de la personne en face, il peut dire des choses qui n'ont pas vraiment de rapport, genre « Ah, mais tu sais, tu t'es mis à parler beaucoup plus vite, c'est pas la peine de t'énerver comme ça, on peut discuter. » Enfin, c'est généralement un signe que tu n'es pas très sûr de toi. Genre ce genre de raisonnement et ce genre de choses. Ça pourrait être impressionnant, je suis très curieux de voir ce que ça va donner dans les années à venir. Moi, ce que ça me rappelle, c'est qu'au tout début, quand IBM, c'était Deep Blue, quand il a commencé à jouer aux échecs, on était à la réaction qu'ont peut-être certaines personnes qui vont entendre cette news et se dire « Ah, 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 non, mais c'est bon, jamais ça y arrivera. » Et bien, quelques années plus tard, Deep Blue battait Kasparov. Donc, je ne sais pas. C'est enthousiasmant et j'ai pas envie de dire inquiétant parce que moi, je suis sûr que ça donnera des choses intéressantes, mais c'est surprenant, en tout cas, qu'on commence à arriver à ce type d'horizon pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Julien ? Tu penses que ça arrivera, que ton métier de journaliste est en danger ou pas encore ?
Ah bah, je crois qu'il y a déjà des intelligences artificielles qui sont capables d'écrire des petites brèves de résumés de matchs ou d'actualités boursières.
Tout à fait, oui, t'as raison.
Là-dessus, on est déjà concurrencé par des machines. Pour revenir à IBM Debater, moi, ce qui m'a assez bluffé, enfin dans ce que IBM a montré, parce qu'il n'a pas forcément tout montré, mais c'est que effectivement, la machine est capable donc de construire un raisonnement et des arguments, mais en même temps, il utilise aussi des techniques oratoires qui lui permettent de pas perdre la face ou de convaincre pas par le raisonnement, mais par les sentiments. J'ai vu qu'il avait fait quelques plaisanteries. Il arrive à adapter son discours s'il doit s'adresser à des enfants ou quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment une capacité non seulement de chercher la bonne information et l'utiliser face à son contradicteur, mais en même temps des techniques pour toucher le public et arriver, entre guillemets, un peu à le mettre
dans
son côté.
Dans sa poche, ouais. Mmh.
Voilà.
C'est peut-être plus inquiétant même que la capacité à débattre, en fait, cet aspect-là.
Oui, parce que là, il y a vraiment un aspect manipulation, quoi.
C'est ça. Dans le contexte d'un débat, bon, bah, ok, pas de problème. Mais dans des contextes connexes où on pourrait imaginer ce type d'intelligence artificielle qui va essayer de te convaincre d'un argument politique ou peut-être être un outil d'assistance pour des sujets un peu plus graves, ça peut être effectivement
on pourrait t'orienter à penser de telle ou telle façon, sans que toi-même tu aies les arguments, puisque lui il a accès à une immense base de données et que nous on n'est pas forcément spécialistes de tous les sujets.
Bon, c'est bon, t'as réussi à m'inquiéter en fait. Je rejoins le camp des gens qui sont inquiets. En tout cas, un truc rassurant, c'est que Apple a admis qu'ils avaient fait une erreur, bon, pas tout à fait, mais il y a le problème des claviers qu'on a parfois évoqué ici, les claviers papillons des derniers MacBook Pro et de certains MacBook qui avaient des gros problèmes, en fait, qui se coinçaient dès qu'il y avait une petite poussière ou qui ne fonctionnaient plus. Et quand il fallait le faire réparer, étant donné que, évidemment, c'est Apple et donc tout est intégré et tout est soudé partout, eh ben, on pouvait pas vraiment changer une seule touche, il fallait changer tout le clavier et ça coûtait des centaines et des centaines d'euros. Et ça avait provoqué des procès en réunion contre eux parce que c'était évidemment un problème si au bout de un an ton appareil ne marche plus et qu'il faut que tu payes 700 euros pour faire changer le clavier. Merci. En Europe, voilà, c'est ça. Merci Apple. En Europe, les garanties sont différentes, mais aux États-Unis, c'était parfois le cas. Eh bien, là, ils ont effectivement lancé un programme de réparation pour ces claviers. Ils disent que c'est un faible pourcentage des utilisateurs qui sont touchés par ce problème, bien sûr, mais c'est assez rare qu'ils provoquent ce type de programme, qu'ils lancent ce type de programme. Donc, sachez-le, si vous avez ce problème, eh bien, vous pouvez faire changer votre clavier gratuitement chez Apple et c'est plutôt bienvenu. Quant est en train de continuer à se développer. Alors, Quant, je suis sûr que vous connaissez tous, c'est le service alternatif à Google. En fait, c'est un moteur de recherche soucieux de votre vie privée. C'est d'ailleurs un moteur de recherche français qui, ça s'écrit Q QWANT, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ils sont en train de se développer au-delà du simple moteur de recherche. Ils avaient déjà différents services, si je ne m'abuse. Mais là, ils sont en train de lancer toute une suite de services en alternative à Google, en fait. Il y a un service de mail, un service de cartographie, un service de paiement qui vont être lancés dans les mois à venir. Et c'est plutôt pas mal, parce que pour tous leurs services, évidemment, ils sont dans cette optique de protéger votre vie privée à chaque fois. Ça pourrait offrir une solution, un grand groupe solution simple à ceux qui veulent avoir les services pratiques qu'offre Google ou d'autres, hein, bien sûr, mais en étant soucieux de leur vie privée. C'est une bonne initiative, je pense. Est-ce que tu utilises Quant, toi ? Est-ce que tu serais client d'un truc de ce type ?
J'utilise un peu Quant, et effectivement, pour une personne qui n'est pas forcément un grand spécialiste, l'idée d'avoir un écosystème un peu intégré où il a accès à un service de cartographie, un service de paiement, un service de recherche, plutôt que d'aller chercher, alors pour les mails, il va aller sur ProtonMail, pour le paiement en ligne, il va aller sur PayPal, bon, de se disperser. Là, il aurait éventuellement tout apporté. En ayant la certitude, en tout cas c'est la promesse de Quant, que le minimum de données, voire aucune donnée, est récupérée là-dessus.
C'est ça qui est séduisant, c'est l'idée de se dire, plutôt que d'aller à droite à gauche et puis d'utiliser des outils différents pour tout un tas de services, là on va chez Quant et on est tranquille chez Quant et basta. Et alors ensuite, il y a à mon avis, même la plus grande question sera, est-ce que en collectant un minimum de données ou même pas de données, est-ce qu'ils vont pouvoir rendre les mêmes services que un Google ou un autre service de ce type ? Par exemple, est-ce que le futur assistant Quant, s'il arrive un jour, pourra aller voir dans Quant Mail ou dans Quant Maps ce que j'ai fait récemment pour me rendre des services et me faire gagner du temps ? Est-ce que c'est pas exclusif, l'idée de protéger la vie privée et de pouvoir rendre ce type de service ? Apple y arrive plus ou moins bien, mais eux, ils disent on protège votre vie privée, mais nous on va utiliser vos données. Je crois que Quant dit, nous, on ne veut même pas savoir ce que c'est vos données. Donc...
C'est la difficulté. Google a effectivement plein de travers et ça peut être tout à fait justifié, mais comme ils ont accès à nos données, ils peuvent faire des traitements qui sont forcément utiles ils peuvent nous ressortir, si on commande un billet de train et qu'on reçoit la confirmation par email, ils peuvent créer l'information dans l'agenda et tout de suite, on gagne du temps et tout ça est un petit peu automatisé. Quant, si par exemple tout est cloisonné, eh bien ce type de service qui est pratique par ailleurs, ne pourra peut-être pas être délivré.
Bon, en même temps, on peut se créer maintenant son compte Quant, donc peut-être qu'il y aura des partages très protégés de données en interne. Mais du coup, si on a quand même les données qui sont utilisées en interne, est-ce qu'on est si différent d'un truc comme Apple, finalement, qui lui aussi essaye de protéger votre vie privée, mais utilise vos données en interne ? Tout ça est fluide, hein, mais ça serait intéressant de voir exactement quelles sont les différences. Peut-être qu'on demandera à un spécialiste de venir nous en parler un jour, ça pourrait être intéressant. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Quant est une plateforme beaucoup plus ouverte que celle d'Apple, et même s'il y a des trucs comme ProtonMail ou d'autres, ou des outils qui vont vous permettre d'installer du PGP dans vos outils de mail, etc., une solution tout intégrée a certainement son rôle à jouer sur le web aujourd'hui, quoi. Donc, très positif de la part de Quant, je trouve. Quoi d'autre ? Tiens, tu connais ces histoires de trottinettes, de Uber de la... Non, c'est pas du Uber, du Vélib de la trottinette. T'as oui, entendu parler de cette mode californienne ?
C'est en train d'être déployé à Paris, il me semble. Hein. Il y a
exactement.
Un ou deux services qui sont actifs. Donc, il me semble, de ce que j'ai compris, donc, via une application de smartphone, on peut récupérer une trottinette en libre service dans Paris et faire son déplacement en roulant.
Exactement. Et c'est des trottinettes. Alors, l'application en question, c'est Lime, L-I-M-E. C'est la couleur du citron vert, en fait. Et c'est des trottinettes électriques. Si je ne m'abuse, je ne dis pas de bêtises. Hein, c'est bien des trottinettes électriques.
Oui,
c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est des trottinettes électriques qu'on peut prendre en les trouvant avec l'app. Et puis, on peut la laisser n'importe où. On n'a pas besoin de trouver une borne, en fait, pour la déposer. C'est un petit peu... On peut se lever un sourcil parce que c'est quand même un truc qui n'a pas très bien fonctionné. Avec Vélib, il y avait des problèmes de vandalisme, etc. Et du coup,
avec une trottinette... avec Lime, il me semble qu'il y a déjà des problèmes où, comme c'est géolocalisé, en regardant sur la carte, des utilisateurs se sont demandé si les trottinettes n'étaient pas directement chez des gens.
Ah oui.
Les gens les prenaient et les mettaient
chez eux. Oui. Oh
exactement.
Là là.
Et plus inquiétant, alors ça reste à vérifier, mais sur Twitter, je crois qu'il y a un utilisateur qui s'est inquiété d'avoir vu sur une carte géolocalisée, donc un regroupement de trottinettes, donc ils pensaient certainement pouvoir en trouver une, et apparemment, ce serait une sorte de guet-apens pour racketter des gens, pour leur prendre leur téléphone. Donc il y a 3-4 trottinettes, un petit peu excentrées par rapport au trajet habituel, donc les gens vont vers ce regroupement de trottinettes pour en prendre une, et puis ils tomberaient sur des personnes qui prendraient leur téléphone portable, leur portefeuille.
Oh là 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 là.
Donc ça, c'est un problème à vérifier. Donc c'est un compte authentique sur Twitter qui en a parlé.
Ouais, je comprends, mais pff, oh là là. Mais c'est...
Voilà, là on a deux problématiques. Alors les trottinettes chez les gens, c'est pas grave en soi pour les personnes, mais si tu tombes sur des guet-apens,
bien sûr, oui. Ah, mais à chaque fois que j'essaye de reprendre foi en l'humanité, mes rêves sont détruits. C'est dramatique. J'avais même pas pensé ni aux gens qui les prendraient chez eux. Moi, je pensais juste des gens qui les casseraient ou, tu vois, juste du vandalisme tout court. Mais bon, très bien. Bah, écoute,
l'imagination humaine est spectaculaire.
Sans limite, exactement. bon, il y a quand même une bonne chose. Là, tu vas avoir du mal à me dire qu'il peut y avoir des effets pervers. C'est la formalisation du WPA3, qui est une norme de sécurité pour le Wi-Fi, elle a été formalisée là, elle est en train d'être formalisée maintenant, et donc elle sera implémentée bientôt dans tous les routeurs et tous les appareils que vous utilisez, et c'est un moyen d'utiliser la sécurité, enfin de sécuriser vos connexions Wi-Fi, qui est beaucoup plus fort que le WPA2 qu'on utilise depuis presque 15 ans maintenant. Alors ça va mettre un moment à arriver, mais il y a plein de choses super malines pour la sécurité. Il y a des choses comme par exemple le fait que le contenu, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais le chiffrement évolue au cours du temps de telle manière que si quelqu'un réussit à craquer le chiffrement pour votre session de maintenant, s'il a emmagasiné plein de données depuis des semaines ou des mois, il ne pourra pas craquer les données d'avant. Il y aura des chiffrements qui auront évolué. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, le WPA3 arrive bientôt, ou disons commence à arriver. Espérons que les routeurs existants seront mis à jour pour profiter de ces évolutions. Mais en tout cas, d'ici quelques années, ça va commencer à être implémenté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Et ce qui est bien, c'est que les technologies WPA3 seront rétrocompatibles. Ce qui veut dire que si tu achètes un matériel certifié WPA3 et que tu n'as rien d'autre en WPA3 chez toi, il sera capable de fonctionner avec le reste du matériel et il s'adaptera en WPA2 et tu pourras toujours te connecter sans problème.
C'est
ça. Là-dessus, c'est pas gênant.
Bon, et si on parle de petits gadgets, on va conclure avec deux petites news rapides. Qualcomm a annoncé, on a leaké un nouveau processeur de chez Capcom, qui sera sans doute, de chez Qualcomm, qui sera sans doute le Snapdragon 1000. Et en fait, le Snapdragon 1000, c'est un processeur qui est prévu pour les appareils sous Windows. Et c'est un processeur ARM, qui est beaucoup plus puissant que les processeurs ARM habituels, mais qui consomme quand même beaucoup moins que les processeurs Intel de ce type-là, les processeurs low, faible consommation. Et donc, ça pourrait créer... On a aujourd'hui des appareils sous Windows qui sont en train de sortir avec des processeurs ARM existants. Là, ça permettrait d'avoir des appareils qui seraient vraiment à fonctionnement à puissance comparable avec les processeurs Intel faible consommation. Pour ceux qui aiment les détails, on est plus proche d'un processeur Intel série U, donc à consommation de 15 watts, plutôt que les séries Y qui ont une consommation de 4,5 watts. Donc là, on est à une consommation de 12 watts, mais une puissance qui est beaucoup plus proche de quelque chose de plus puissant chez Intel. Donc c'est assez enthousiasmant pour les fans de Windows en mobilité, on va dire. Là, ça pourra donner quelque chose de compétitif par rapport aux appareils sous processeur Intel, ce qui est une sorte de graal qu'on n'a jamais réussi à atteindre, quoi. Et enfin, pour les fans d'Apple, pour pas les laisser avec le sale goût dans la bouche du clavier papillon. Voilà, du clavier qui se coince, eh bien, il semblerait qu'ils soient en train de travailler sur des nouveaux types d'écouteurs. Alors, il y a plusieurs AirPods, on en a souvent parlé dans l'émission, mais les AirPods, c'était vraiment l'appareil à succès d'il y a 2 ans. C'était inattendu, mais c'était vraiment un design hyper intelligent. Moi, je suis complètement amoureux de mes AirPods. Eh bien, il y aurait deux nouveaux modèles d'AirPods qui arriveraient. Un, cette année, avec une nouvelle puce qui permettrait d'utiliser Siri sans avoir besoin de tapoter, mais simplement en parlant. Ce qui est super pratique, en fait, c'est un petit truc, un assistant qui est dans votre oreille. C'est un petit peu comme le film Her, c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de faire une action physique, on peut juste parler et l'assistant va nous répondre dans notre oreille. C'est un petit peu Google Home ou Alexa dans la vie, partout avec vous. Donc ça arriverait cette année. Et puis il y aurait un autre appareil AirPod qui serait là, beaucoup plus évolué, qui aurait un noise cancellation, comment on dit ça déjà ?
Un réducteur de bruit,
voilà. Qui aurait de la résistance à l'eau, qui aurait vraiment une meilleure qualité, qui coûterait pour le coup sans doute plus cher. Ce serait peut-être un AirPod Pro ou un truc du genre. Et enfin, il y a des écouteurs, carrément des gros écouteurs qualité studio en over the ear, donc des gros écouteurs qu'on met sur les oreilles, classiques, qui arriveraient chez Apple. Tout ça est peut-être un petit peu moins intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est ce nouveau modèle d'AirPod qui vous met l'assistant dans les oreilles sans avoir besoin de tapoter. Alors, je disais la semaine dernière que les Google Home et les assistants, les enceintes intelligentes n'étaient pas hyper convaincantes pour moi. Ça serait un petit peu hypocrite de dire que je vais beaucoup utiliser Siri, surtout que je trouve que Siri est moins performant, même s'il est moins performant que ce que je pensais par rapport aux concurrents. Mais peut-être que, en fait, comme l'occasion fait le larron, l'usage fait l'assistant, et quand on l'a dans les oreilles parce qu'on est en train d'utiliser ses AirPods de toute façon, peut-être qu'on serait plus prompt à les utiliser pour des petites requêtes, quoi. Donc moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, et je pense que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour réaliser le fantasme du film Her, quoi.
Et donc ça, ce serait pour 2019 a priori.
Alors, ces modèles, ce petit refresh, ça serait cette année, 2018, et le gros refresh, ça serait pour l'année prochaine, avec réduction de bruit, etc.
Ah oui, si l'étanchéité, etc., d'accord.
Une version un peu pro, quoi, une version qui fonctionnerait mieux.
Ok.
À voir, ça ne sont que des rumeurs. Et c'est sur cette rumeur, allez, enthousiasmante, sur laquelle on ne va pas pouvoir essayer de mettre une coloration négative, n'est-ce pas ? Même si tu vas essayer, oui. Julien, tu ne vas pas réussir.
J'ai tenté.
Qu'on va conclure cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir été présent et de nous avoir expliqué un petit peu tous ces détails sur la directive sur le droit d'auteur. Si on en veut un petit peu plus, si on veut plus de Julien dans notre vie, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ?
Alors, vous pouvez me retrouver donc sur le site Numérama, donc numérama.com, où tous les jours, j'essaye d'expliquer l'actualité sous un angle juridique et politique de la tech et du numérique, en fait.
Super, bah oui, Numérama, voilà. On les connaît bien, hein, on les aime bien. Et donc, on vous encourage à aller lire cette excellente publication et retrouver notamment les articles de Julien. Et d'ailleurs, si vous appréciez Numérama et les podcasts, vous serez peut-être intéressé par le deuxième volume du podcast de Numérama qui s'appelle Club Internet, dans lequel, en fait, ils ont un volume thématique. C'est le Wonder Women Edition. C'est une série de 10 podcasts qui vont être dédiés aux femmes et Internet. Donc, ils vont avoir 10 épisodes où ils vont parler avec des femmes et leur lien avec Internet, comme ils le disent. Je vous laisserai aller écouter ça. Moi, je vais aller m'abonner. Ça s'appelle Club Internet. Et ça commence, en fait, je ne sais plus quand exactement, mais très bientôt, la deuxième série, avec notamment, c'est Marie Turcan et...
Et Nelly Le Sage.
Voilà, Nelly Le Sage, qui vont animer cette deuxième saison de Club Internet. Pour ma part, vous le savez, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. D'ailleurs, si vous avez suivi ma vidéo Instagram, vous savez ce que c'est. Enfin, Instagram TV, vous savez ce que c'est que ce petit truc. Vous l'avez peut-être entendu pendant l'émission si je n'ai pas réussi à. à bien virer tous les sons. C'est mon petit fidget cube. Vous verrez ça sur la vidéo. Ah, qu'est-ce que j'aime ce petit truc. Vous verrez ça sur la vidéo sur Instagram TV. Donc, je ferai peut-être des petits contenus comme ça de temps en temps. N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est Note Patrick. Et bien sûr, le site, la page Patreon du Rendez-vous Tech pour soutenir l'émission. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Patreon.com/RDVTech. Si vous aimez les émissions de qualité, j'espère, qui vous distraient et vous informent, et si vous aimez surtout les business models qui se foutent pas de votre gueule, les business models honnêtes et éthiques, je pense qu'on peut dire que c'est un business model honnête et éthique, pensez à aller encourager l'émission sur patreon.com/rdvtech. Et bien sûr, frenchspin.fr, les notes de l'émission, si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé de notre épisode, ce avec quoi vous êtes d'accord, ce avec quoi vous êtes absolument pas d'accord, vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires de l'émission. N'hésitez pas à le faire et bien sûr à partager sur les réseaux sociaux. On fait avec Nicolas Poppy des petites capsules vidéo, enfin audio plutôt, sur les réseaux sociaux avec un petit extrait de l'émission depuis quelques semaines. N'hésitez pas à les partager parce que c'est, j'espère, un format qui pourrait encourager des gens à découvrir l'émission. Donc n'hésitez pas à aller, si vous nous suivez sur Twitter ou sur Facebook, ou sur Instagram même, n'hésitez pas à partager tout ça avec des gens dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés ou dont vous pensez qu'il serait important qu'ils suivent l'actualité tech et d'une manière qui pourrait leur plaire, de manière à ce qu'ils apprennent tous ces sujets hyper essentiels pour notre monde d'aujourd'hui, de la modernité. Merci à vous tous de nous avoir suivis, on vous fait des grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.